Bonjour à tous, ici Thomas Mantigny, un des Faussébos, et aujourd'hui je vais vous parler de Justin Trudeau. On se demande plusieurs, est-ce qu'il a un avenir politique? J'ai déjà couvert le sujet en écrivant un article, en fait un podcast qui se nommait « La suite pour les libéraux », et j'ai parlé de plusieurs investissements. Mais j'aimerais faire un retour sur c'est quoi ces techniques qu'il pourrait utiliser pour remporter contre Poilievre les prochaines élections, s'il y avait quelqu'un qui pourrait changer sa place, et c'est quoi qui se passe actuellement. Donc premièrement, on est au cours des annonces pré-budgétaires de Justin Trudeau, dans lesquelles il s'amuse à donner quelques nouvelles justement de ce qu'il va faire. Justement, il a annoncé récemment qu'elle a utilisé plus que 2 milliards de dollars dans le milieu de l'intelligence artificielle. Et justement, ça continue. Il y a des places en garderie qui seront ajoutées, les logements et aussi l'alimentation gratuite. Donc, il dépense beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Il souhaite en dépenser beaucoup. Rendu au point que Pierre Poilievre dénonce un abus de dépenses et qu'il devrait se calmer les nerfs sur le sujet. Il y en a plusieurs qui sont d'accord, et aussi que la coalition entre le NPD et le Parti libéral du Canada, ben, elle n'aide pas beaucoup Trudeau. Oui, ça te donne plus de sièges, mais il perd des personnes qui sont plutôt au centre et qui votent pour lui. Pourquoi? Ben, parce que là, il s'associe et là, il devient de plus en plus à gauche, et là, justement, il dépense de plus en plus d'argent dans des projets à court terme, parce qu'on est quasiment sûr que Pierre Poilievre, quand il va être rendu en poste, va abolir ces dépenses-là, comme mettons des soins dentaires, des trucs pour la médecine, l'intelligence artificielle, les logements et tout ça, il va faire à sa manière. Donc, Justin Trudeau, on n'a pas encore pour longtemps, son troisième mandat tire à sa fin, les prochaines élections sont planifiées pour 2025, donc, c'est des mesures qu'il va prendre, ça va pas rester longtemps, sauf si Pierre Poilievre va décider de les abolir. En ce moment, il chauffe les fesses au Parti libéral du Québec dans la région du Québec. Justement, ils s'accotent les uns les autres, les libéraux et les conservateurs dans cette région. Et on se demande, est-ce qu'il va gagner? Ben, on continue de voir que le Bloc québécois continue de ravir la majorité presque de la province en termes de sièges et de voix. Donc, je suis pas mal sûr que le Bloc québécois va peut-être l'emporter le plus dans les votes du Québec. Mais ce qui pourrait aider le Parti libéral, c'est de gruger de ces votes-là parce qu'il faudrait qu'ils ravissent la population québécoise parce que c'est l'électorat qui peut aller le plus chercher. Le nouveau parti démocratique, le NPD, il n'est pas très accessible au Québec, il n'y aura pas beaucoup de sièges. Le parti conservateur, perdu d'avance, les idéologies sont complètement différentes. Le Bloc québécois, ça reste similaire. Toutefois, il n'y a pas des mouvements indépendantistes du côté des libéraux, mais en termes de politique sociale et économique, ben, il pourra aller chercher des points là-dedans. Étant donné qu'ils en perdent actuellement en s'associant avec le NPD, même si ça leur est avantageux pour la Chambre des communes actuellement. Ils devraient aussi se concentrer sur des groupes ethniques ou culturels, ou plus encore, qui seraient mis de l'écart, justement par les conservateurs, parce qu'ils n'auraient pas nécessairement besoin pour remporter les élections. Par là, je parle des jeunes, je parle des minorités ethniques, et des femmes. Des femmes parce que, ben, on voit un mouvement de conservatisme, réduction des droits des femmes, peut-être même l'abolition du droit à l'avortement. Donc, ça pourrait être très désavantageux du côté des femmes. Minorité ethnique, le Parti conservateur est très fermé là-dessus. Les jeunes, c'est ce qu'ils souhaitent mettre en place, ne va pas nécessairement avec les intérêts des jeunes. Je dis pas que 100% des jeunes sont contre Pierre Poilievre, mais ça reste que la majorité des jeunes ne sont pas situés à droite de l'échiquier politique. Donc ce serait trois groupes qui seraient à sa disposition et qui devraient essayer d'aller voir. Ils pourraient essayer essayer aussi d'aller conquérir les banlieues des grosses villes ainsi que les régions métropolitaines des villes comme Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Montréal, Québec, des grosses villes, parce que son électorat, l'électorat de gauche, se situe majoritairement souvent ici, dans ces régions-là. Il y a plusieurs experts aussi qui voient une élection comme un référendum. C'est pas une question comme est-ce que vous voulez l'indépendance du Québec ou non, mais c'est plutôt est-ce que vous voulez garder ce gouvernement en place. Essentiellement, c'est la même, c'est ça, parce que c'est ça les deux choix. C'est un gouvernement qui le remplace ou le gouvernement reste en place. Donc, il y a deux choix. Puis tout ça se traduit par le niveau de confiance de la population et il est extrêmement bas. Il y a plus de 80% de la population canadienne qui dit qu'un changement de gouvernement de premier ministre à tout moins est essentiel. Mais justement, il y en a le tiers d'entre eux qui pensent qu'il n'y a pas quelqu'un d'assez compétent en ce moment qui pourrait le remplacer. Mais là, je vous parle pas des personnes qui le remplacent dans son parti. Peut-être que Justin Trudeau pourrait se faire pousser de son poste et se faire remplacer par un ou une ministre ou d'autres personnes qui ont des idées plus libérales. Des exemples, on a juste la vice-première ministre et la ministre des Finances, Chrystia Freeland, qui jouerait un rôle assez essentiel. Peut-être qu'elle ne viendra pas chercher autant de votes du côté des Québécois, étant donné que elle parle pas très bien français, sans être méchant. Il y a aussi le ministre de l'Industrie, François-Philippe Champagne, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, la présidente du Conseil des Trésors, Anita Anand, et finalement l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney. Donc il y a plusieurs exemples. Mais ce qui rentre dans la ligne de mire, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut tant bien performer au Québec, dans les régions francophones, partout au monde, et au Canada, pardon, et dans le reste du Canada? Parce que, essentiellement, dans les noms que je viens de vous nommer, c'est soit qui performent bien, ou qui sont appréciés du côté du Québec, ou soit du reste du Canada. Mais, rendu là, il n'y en a pas qui comblent les deux. Parce que ça fonctionne pas très bien. On n'a pas qui ravissent les deux. Donc, justement, Justin Trudeau, les experts pensent que ce serait une bonne idée de le garder. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui serait assez bon pour remplacer Pierre Poilievre. Pourquoi? Parce que je viens de vous dire, il y a aussi beaucoup d'expérience. Ce serait son quatrième mandat. Il est de la famille politique. Son père qui était ancien premier ministre. Et aussi, ben, les gens le connaissent bien et il ravitaillent, là je le dis à différents degrés, le Québec et le reste du Canada. Pourquoi le Québec? Ben, c'est parce qu'on constitue environ 20% de la portion démographique du Canada. Donc, ce qui est assez énorme. Mais justement, ce qui entre en compte, c'est qu'est-ce qu'il devrait critiquer de Pierre Poilievre? Souvent, on le voit critiquer le fait qu'on pourrait qu'il ressemblerait à Donald Trump, qu'on pourrait lui comparer à Donald Trump. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner parce que là, maintenant, les gens sont tellement plus d'accord avec Justin Trudeau qu'ils sont rendus à ne plus l'écouter. Erreur après erreur après erreur, les gens en ont marre et n'y prêtent plus attention à Justin Trudeau. Ça serait la fin, justement, peut-être d'un règne long, que ça fait longtemps que les libéraux ont dépassé les conservateurs. Oui, il y a eu quelques mandats de conservateurs, mais ça fait extrêmement longtemps qu'il n'y en a pas eu. Puis, qu'est-ce qu'il devrait faire à la place? Il y en a certains qui pensent qu'à la place de le comparer à Donald Trump des extrêmes de droite, il devrait critiquer c'est qui son équipe de ministres. Il y a pas de ministres qui sont peut-être assez connus, assez compétents dans les domaines. Il y a pas de personnes qui ressortent de l'équipe conservatrice dans laquelle ils pourraient remplacer certaines personnes dont Mélanie Joly, Chrystia Freeland a des postes importants qui sont essentiels pour le bon fonctionnement de la politique canadienne. Donc, il faudrait mettre le point, faire le point sur justement le fait que leur équipe est peut-être pas assez solide qu'on le pense. On pourrait, là, il faut aussi qu'il se prépare à un prochain mandat sous Donald Trump qui pourrait arriver. Dans ce cas-ci, c'est différent des prochaines élections américaines, parce que les élections américaines, c'est du coude à coude, c'est quasiment 50-50 dans les élections, dans les intentions de vote. Rendu là, nous, ce qu'on nous propose, c'est une différence énorme avec une possibilité de 210 sièges du Parti conservateur, seulement 63 du côté des libéraux, 38 du Bloc québécois, 25 du NPD et 2 pour le Parti vert, selon 338 Canada. Donc, c'était plutôt sur ce qui va se passer pour les libéraux, c'est quoi leur voie d'issue, les voies de passage qu'ils pourront utiliser pour remonter, quel groupe ils devront ravir, qu'est-ce qui manque à Pierre Poilievre, c'est quoi qu'ils devront faire, est-ce qu'un changement de premier ministre ou de candidat libéral serait bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour convaincre la population, et un peu tout le contexte autour des prochaines élections qui s'en viennent assez rapidement, dans une dizaine de mois environ. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny à l'Info Cibo.